Et si on partait sur Europe 1, si on partait maintenant, tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Chaque jour, deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai dans un des plus beaux pays d'Europe. C'est le pays des fjords magnifiques. Vous savez, les fjords, ce sont ces bras de mer immenses qui se glissent entre des montagnes jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres. C'est un paysage unique, majestueux. Et c'est tout un mode de vie aussi, parce que quand on est au fin fond d'un fjord, je vous assure que la vie n'est pas la même qu'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, donc après 17h. Et puis en première heure, nous allons flâner, suivre le canal du Midi à l'ombre de ses 45 000 platanes, au rythme lent de ses 63 écluses entre Toulouse et la Méditerranée. C'est marrant parce que dès qu'on dit canal du Midi, je sais pas, on est bien, le rythme ralenti, on a envie de se poser et de prendre l'apéro tranquillement. Et pour faire tout ce grand voyage, les meilleurs amis voyageurs du monde, Nathalie Elal, bonjour.
Bonjour à tous.
Il y a également Emmanuel Jarry, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et puis Jean-Bernard Carrier.
Allez, on embarque.
On embarque le canal du Midi.
Ah bah écoutez, 240 km entre l'étang de Thau, près de Sète et Toulouse. C'est un magnifique ouvrage d'art, une prouesse d'architecture fluviale qui a été inaugurée le 15 mai 1681.
1681, c'est très vieux, très ancien. C'était vraiment une prouesse technique.
Il a fallu 14 ans de travaux, un chantier de titans pour le faire. Et puis ce qui est important, c'est qu'il est classé patrimoine mondial de l'humanité depuis 1996. Donc il y a vraiment une reconnaissance, un label international qui fait de lui une attraction touristique majeure dans les trois départements qu'il traverse, l'Aude, l'Hérault et la Haute-Garonne.
Très bien, on va faire une grande balade le long du canal du Midi pendant une heure. Nathalie, est-ce qu'il y a des personnages célèbres qui ont rôdé autour de ce canal ?
Ah oui, plutôt. Alors d'abord, impossible d'évoquer par exemple Toulouse, sa ville natale, sans penser à Claude Nougaro, est né en 1929, le célébrissime auteur, compositeur, interprète et surtout poète, souvenez-vous.
Au mon pays, au Toulouse. Au Toulouse.
On ne s'en lasse pas. Hein.
J'adore.
Et puis sur Europe 1, il y a une animatrice qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse, qui est née là-bas elle aussi, Émilie Mazoyer. Bonjour Émilie, qui nous écoute. Jean-Louis et Bernard Debré sont nés tous deux dans la ville rose le même jour, le 30 septembre 1944. Et pourquoi ce sont des faux jumeaux ? Le premier a été ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Le second est médecin et a été député, ministre et maire. Enfin, on voit bien des petits amateurs dans cette famille Debré. L'écrivain Bernard Werber, né en 1961, également toulousain, auteur entre autres du best-seller « Les fourmis
oui ».
On change de décor aussi, Philippe, avec la ville de Sète, qui a vu naître le poète et écrivain Paul Valéry en 1871. Et puis bien sûr, Georges Brassens, auquel on doit tant de chansons hautes en couleurs. Et on a tous des refrains de Georges Brassens en tête.
Beaucoup de poésie autour de ce canal.
Ah, beaucoup.
Ouais. Emmanuel Jarry, vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages et la gastronomie. Vous avez choisi les deux meilleures spécialités du monde, vous êtes rusé, vous êtes à l'origine de l'émission.
Et le bien-être aussi.
Et le bien. Et les massages.
Oui, c'est ça, j'ai tout pris.
Les spas, les thalassos.
Vous pourrez en laisser un peu aux autres quand même. Vous êtes à l'origine de l'émission C'est meilleur quand c'est bon sur Internet, qui a un grand succès. Alors, le canal du Midi, est-ce que ça correspond à une tradition gastronomique où il y a des petits plats du canal et que...
Il y a plein de petites choses, mais il y a surtout les cassoulets. Dis au pluriel parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Le canal du Midi, c'est vraiment le parcours des cassoulets de Toulouse à Carcassonne. Et voilà, on va voir que les cassoulets se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément.
Recommandé par tous les diététiciens.
Voilà. Et on en mange surtout l'été.
Merci Emmanuel. Donc, dans un instant sur Europe 1... on entame franchement ce grand voyage entre Canal du Midi et Norvège, qui est pas mal quand même comme voyage. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait 2 heures de voyage tous les après-midi, après 17h, je vous emmènerai donc en Norvège, qui, contrairement à ce qu'on pense, est pour moi aussi le pays des lumières particulières, le soleil de minuit, les aurores boréales, ou les gigantesques feux de la Saint-Jean quand l'été arrive. Et là, tout de suite, nous sommes sur le canal du Midi, qui était un peu l'autoroute hein, au XVIIe et XVIIIe siècle, l'autoroute fluviale qui reliait Toulouse à la Méditerranée. Et pour nous guider le long de ce canal mythique, la chanteuse et romancière Olivia Ruiz. Si vous écoutez ça, vous allez tout de suite reconnaître.
Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat croque.
Et si vraiment, vraiment, vous n'avez pas reconnu, on a ça aussi.
Fous-moi la paix où je te taloche, je me sens toute démantelée. Sur moi tes questions ricochent, inutile de te fatiguer.
Voilà, Olivia Ruiz, qui après avoir vendu plus de 2 millions d'albums, a sorti le 3 juin dernier son premier roman, La commode au tiroir de couleurs, aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Olivia, je suis très heureux de vous avoir en ligne.
Mais moi aussi, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes extraordinaire parce que vous êtes né, vous avez grandi avec le... Enfin, vous n'êtes pas né à l'époque du canal du Midi, mais vous êtes né et grandi avec le canal au sens géographique, juste à côté.
Oui, absolument. Moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Marseillette, qui est situé entre Carcassonne et Narbonne, et le canal du Midi le traverse. J'ai grandi dans un café, hôtel, restaurant, tabac, presse, pompe à essence, qui du coup était fréquenté par ceux que nous appelions les bateaux.
C'est-à-dire
nous étions contents. Bah, les bateaux, ce sont les personnes qui voyagent en péniche sur le canal du Midi. Mmh. Donc pour la plupart des Anglais, des Allemands, des Hollandais, voilà.
Et ce café était tenu par qui dans votre famille?
Par mes parents, deux de mes oncles et mes grands-parents.
Ah d'accord, c'est vraiment l'affaire de famille. Donc vous avez vécu baigné dans l'univers du canal. Vous aviez des liens avec les gens qui passaient, avec les bateaux?
Bien sûr, bien sûr. J'ai encore quelques courriers justement de gens qui sont passés dans notre café familial et qui ont gardé un si joli souvenir qu'ils ont continué d'écrire à la petite fille que j'étais et qui vagabondait un peu de table en table pendant que ses parents et grands-parents étaient au boulot.
Ouais. Et vous y retournez souvent dans ce café?
Ah bien sûr, j'y retourne, j'y étais hier. Donc oui, ça reste, alors ça a été repris par deux jeunes Irlandais justement, mais ça reste, moi j'aime bien y amener mon fils aujourd'hui et le voir faire... son petit tour de danse, mais pas mal des vieux qui étaient déjà les papis de mon époque que je regardais jouer à la belote sont toujours là. Donc c'est assez rigolo que la transmission se fasse sans transmission finalement, en lui faisant juste goûter un peu la pierre et les personnages de ce lieu qui pour moi était magique. Mais...
Je sais qu'il est important pour vous parce qu'il fait partie de votre roman, votre premier roman.
Tout à fait, il est un des lieux de... Du décor, il est le décor de l'avant-dernier chapitre.
Ce canal du Midi, pourquoi est-ce que d'après vous il fait rêver comme ça? Pourquoi il est tout de suite associé à quelque chose de doux, de romantique, d'agréable? Qu'est-ce qu'il a?
Alors d'abord par sa beauté et par aujourd'hui en tout cas par son côté joliment désuet. Les écluses, nous c'est quelque chose... qui est vraiment très important pour nous. D'abord, quand on est jeune, on veut tous être éclusier. C'est comme si ça avait un parfum d'ailleurs, comme si on mettait déjà un pied dehors, parce qu'on fait des rencontres extrêmement riches. Et c'est lui qui draine aussi l'échange permanent. La mixité est immense dans cette région qui a accueilli les immigrés espagnols, italiens. Et c'est comme une continuité.
C'est le cas de votre famille, qui était une famille espagnole au départ.
Oui, absolument. Trois de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre d'Espagne. Mais voilà, c'est comme si ça permettait la continuité de ce mélange des cultures qui nous permet de rester curieux, ouvert et authentique. Enfin, qui nous. J'habite à Paris depuis 20 ans, mais vous voyez, je continue à dire nous. Qui leur permet de rester authentique et curieux et tolérant. Ça met une ambiance particulière dans tous ces petits villages qui jalonnent le canal du Midi.
Alors le canal, c'est très romantique, hein, comme vous le disiez, c'est les écluses, des paysages adorables, des pots de géranium sur les écluses, des platanes, c'est les allées ombragées le long du canal, c'est tout ça, ça évoque beaucoup de choses, mais en réalité, à l'époque de sa construction, et on est dans les années 1600, hein, on le disait tout à l'heure avec Jean-Bernard Carrier, c'était un pari fou, hein, il fallait construire un canal qui perçait un territoire très 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 long pour l'époque, on voulait relier comme ça Toulouse à la Méditerranée, et donc il fallait l'alimenter avec de l'eau qui venait d'une des montagnes du Massif central, il fallait passer des obstacles incroyables, il y a des ponts-canal magnifiques, donc les bateaux passent sur des ponts, il y a même un tunnel, c'était le premier tunnel-canal du monde. Le gars qui l'a construit, l'architecte, il s'appelait Pierre-Paul Riquet, est-ce qu'il est connu là-bas dans la région?
Ah mais comment vous dire, quand on grandit là-bas, il est plus important, on apprend son nom avant celui de Jules César.
Ah bon?
C'est ah mais bien sûr, c'est un tel pari, c'est un tel rêve fou que cet homme est porté au nu dans ma région et probablement bien au-delà et il le mérite, amplement. D'ailleurs, toute la région est jalonnée de constructions. Récemment, je visitais un château, un domaine viticole, le château de Paraza. Et voilà, là aussi, il a séjourné là, donc il a fait quelques constructions de terrasses étagées, comme un cadeau pour remercier les gens qui l'avaient logé. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment enrichi cette région, même au-delà du canal du Midi.
Olivia Ruiz, vous restez avec nous. Bien sûr, on va continuer à découvrir le canal du Midi avec vous, mais on va vous écouter un petit peu. On était impatients de le faire. On va vous écouter chanter. Voici votre premier grand succès, Olivia Ruiz. C'était en 2005. Un titre qui s'appelait « Je traîne des pieds ». Et vous êtes bien sûr sur Europe 1 dans « Et si on partait ?»
Europe 1, Philippe Googler.
Vous écoutez « Et si on partait ?» 2 heures de voyage tous les jours. Après 17h, je vous emmènerai en Norvège et nous parlerons notamment des aurores boréales, qui est un phénomène splendide. Et là, tout de suite, nous naviguons sur le canal du Midi. Alors, on va passer bien sûr par Toulouse, par Carcassonne, par Sète. Et nous sommes avec la chanteuse et romancière Olivia Ruiz. On adore parler du canal du Midi. Olivia, on faisait un petit tour de table là, pendant qu'on vous écoutait chanter. Et tout le monde connaît le canal et tout le monde a une impression. Par exemple, Emmanuel, vous, c'est quoi?
Moi, je me souvenais d'échanger avec les éclusiers. En fait, je les parcourais en bateau et puis on échangeait. Je ne sais pas, moi, je faisais des photos d'eux. Puis ils me donnaient une salade, un pot de confiture. Et on parlait un moment, quoi.
Ça, c'est sympa. Vous, Jean-Bernard?
Moi, j'adorais la lumière d'automne sur ce canal, avec effectivement tous les platanes sur les berges, et il y a une lumière très diffuse comme ça. Ouais. Et en été, je trouve que c'est trop cru, justement, la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, oui, vous en pensez quoi?
Ah non, mais moi, je me laisse bercer par vos mots, qu'il est doux d'entendre de si belles choses sur cette région que j'aime tant et que si peu connaissent, finalement. Non, je pense que la lumière est belle à chaque saison. C'est vrai que il y a quelque chose dans cette lumière, je vous entendais tout à l'heure, Philippe parlait de la lumière de la Norvège, ouais. Mais qui est assez magique, on a la chance de pas, pour une Parisienne depuis 20 ans, d'avoir un ciel qui est clair et un vent d'une telle violence qu'en général, il permet cette pureté immaculée du ciel de façon permanente. Mais
le vent, si c'est du vent d'autant que vous parlez, il est un peu méchant quand même. Il n'est pas forcément très agréable.
Eh ben, moi, je le considère plutôt comme un ami. Alors, c'est plutôt le cerf chez nous, qui est, je crois, l'autre tramontane. Mais dans l'Aude, en tout cas. Celui qui est assez violent, c'est celui qu'on appelle le cerf, et qui en même temps façonne les êtres. Je le dis dans une de mes chansons, quand on courbe les chines, c'est qu'il est derrière nous. Et si nous sommes aussi fiers de notre région, c'est parce qu'on le prend souvent de face et qu'il nous redresse. Ah. Il y a beaucoup de choses assez jolies et de jolies petites légendes liées à ce vent. Donc moi, j'ai tendance à le chérir, même quand il me décoiffe.
À vous en parler très joliment. Nathalie, vous, qu'est-ce qui vous plaît vous, sur le canal?
Moi, c'est les pots de fleurs. J'ai même failli me prendre un pot de géranium sur la tronche, mais il m'a évité au dernier moment.
C'est à cause du vent, c'est toujours pareil.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous sauriez décrire l'accent de ces régions? Parce que quand on habite dans une région plus au nord, en France, dès qu'on arrive autour du canal du Midi, il y a des accents très, très, très forts qu'on adore. Qu'est-ce que vous en diriez, vous?
Il y a beaucoup de subtilité. L'accent de Toulouse n'est pas l'accent de l'Aude, qui n'est pas non plus l'accent de Montpellier, qui est beaucoup moins prononcé. On aime chez nous cultiver nos différences. Ça fait partie pour moi des points forts de cette région.
Et vous pourriez me faire la différence entre l'accent de Toulouse et l'accent de Carcassonne ?
L'accent de Toulouse est un peu plus E que E, par exemple. On a clairement. Nous, on dirait par exemple dans l'Aude, on dirait plutôt le rose. Et eux, ils appuient le E différemment. C'est compliqué. Je peux le reconnaître en l'écoutant en une demi-seconde, quelqu'un qui vient de Toulouse, de l'Aude. Mais c'est des subtilités difficiles à expliquer. D'ailleurs, vous le savez comme moi, pour les Parisiens, tous les accents sont les mêmes en dessous de Valence. Alors que entre Toulouse, entre Toulouse et Marseille, il y a une différence qui est majeure. Sur les appuis.
C'est pas faux.
Donc voilà, c'est des petites subtilités que peut-être seuls nous pouvons percevoir. Mais en tout cas, chacun aime à défendre son bifteck comme si on était séparés par des centaines de milliers de kilomètres.
Ah oui, mais ça c'est dans toute la France. Et j'ai entendu parler d'une tradition assez étonnante chez vous qui a lieu le 1er mai. Vous pouvez nous raconter la veille du 1er mai, très exactement.
Oui, et que je raconte dans la commode au tiroir de couleurs. C'est moi, ça fait partie des traditions auxquelles je suis le plus attachée. Alors, la veille du 1er mai, tous les jeunes se réunissent au village et partent en expédition pour aller visiter tous les jardins et devants de portes de tous les gens du village. Tout le monde est au courant. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'on touche à leur maison nous mettent un paquet de biscuits ou une bouteille de limonade, une bouteille de bière, ou je ne sais quoi. Et ceux qui sont un peu plus joueurs nous laissent dépouiller leur jardin et devant de porte. Tous les jeunes récupèrent tout ce qu'ils peuvent trouver dans le village, le déposent sur la place du
village.
Attendez,
ils dépouillent, c'est-à-dire qu'ils volent des choses dans les maisons?
Oui, non, sur les devants de porte, les terrasses, les jardins. Donc on prend le mobilier de jardin, on prend les véhicules, prend tout ce qu'on trouve, on le dépose sur la place du village et le matin du 1er mai, tous les villageois se retrouvent pour boire un verre et récupérer tout ce que les jeunes ont réussi à piquer dans tous les jardins de la commune et qu'ils ont ramené sur la place du village, sachant que c'est l'occasion de beaucoup de jeux.
Oui, voilà, c'est encore une excuse pour faire la fête.
Pour se retrouver. Simplement faire la fête, voilà, parce que c'est vraiment partager une adrénaline. Tout le monde sait qu'on est en train de faire ça ce jour-là, mais nous, on le vit comme si on était des gentlemen cambrioleurs.
Ben oui, c'est ça, c'est marrant de se faire piquer des trucs et de devoir aller le récupérer. c'est très, 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 très original.
C'est un prétexte à créer du lien, tout simplement. Je ne sais pas qui a eu le génie d'inventer cette fête, mais du coup, ça permet un lien intergénérationnel parce que les jeunes vont piquer aux gens qui sont, eux, installés dans leur propre maison et qui du coup, se rencontrent parfois... Jamais.
Nathalie ?
Surtout aujourd'hui.
Mais Olivia, est-ce que du coup vous cachez des tablettes de chocolat dans votre commode au tiroir de couleurs ?
Alors non, malheureusement, vous savez, la durée de vie d'une tablette de chocolat à quelques mètres de moi est absolument limitée. Donc elle ne peut pas arriver jusqu'à la commode, c'est vraiment...
Donc elle ne sera jamais piquée par quiconque en fait ?
Et non. Ah non, alors là, par contre, il y a des choses sur lesquelles je ne rigole pas du tout.
Voilà.
Tout ce qui est chocolat ou bonne chère, hein, pas que le chocolat, hein, les bons fromages, voilà. Là, par contre, on plaisante plus.
Et je rappelle que Nathalie parle de la commode au tiroir de couleurs parce que c'est le titre de votre roman qui a déjà dépassé d'ailleurs les 75 000 exemplaires vendus. Félicitations, parce que c'est un joli, joli score. Et ce livre qui s'inspire de votre famille... et qui raconte l'histoire de quatre générations de femmes, c'est très chouette. Merci beaucoup Olivia Ruiz d'avoir été avec
nous.
Merci
à vous. Merci et passez un bel été.
Merci à vous. Bon moment là-bas, près du canal du Midi. Je vous envie.
Vous pouvez, je sais, je suis chanceuse.
À très bientôt.
Portez-vous bien.
Au revoir.
Au revoir.
Dans un instant, on continue à explorer la région, cette belle région du canal du Midi entre Toulouse et Méditerranée. On retrouvera Nathalie Elal et toutes ses histoires étonnantes. À tout de suite.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait en Norvège tout à l'heure, après le flash de 17h, et tout de suite sur le canal du Midi, cet endroit si doux, si paisible, si agréable, qu'on a envie de parler plus lentement, comme ça, et de se laisser faire. Nathalie Elal, alors
oui.
le
Je me laisse pas faire.
Ah bon? Vous, allez, et à Toulouse, bien sûr, le long du canal du Midi, c'est des villes phares sur ce parcours. Quand je vous dis Toulouse, vous pensez à quoi? À la brique rose, au cassoulet?
Non, pas vraiment.
Ah bon?
Je pense à ça.
Pensez
moi.
À quoi?
Je pense à ça, écoutez.
L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes.
Eh oui, la violette, parce qu'elle est vraiment indissociable de la ville rose. Violet et rose, ça va bien ensemble d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on la connaît aujourd'hui en bonbons, en fleurs en sucre cristallisé qui sont très décoratives pour les pâtisseries. Mais c'est avant tout une fleur qu'on offre et qu'on a surtout beaucoup, beaucoup offert dans le passé. Et d'ailleurs, Philippe, est-ce que vous connaissez sa signification en langage des fleurs? Et d'ailleurs, tout autour de la table, est-ce que vous connaissez cette signification? Parce que chaque fleur a un langage.
Non, je ne connais pas.
Moi, le violet, le mauve, ça ne me fait pas penser à un truc joyeux. Je ne sais pas.
Non, mais la violette, la fleur.
La
fleur,
l'offre.
Non, je ne sais pas.
Bon, bah, je vous donne la réponse, évidemment. C'est l'amour caché, l'amour timide et discret. C'est le symbole de la pudeur, de la simplicité. Et un bouquet de violettes de Toulouse signifie « laisse-moi t'aimer ». Ah. C'est beau, non?
Mais alors, quel est le lien entre les violettes et Toulouse, exactement?
La violette, elle est apparue dans des cultures au nord de Toulouse, vers 1854. Il y a une légende d'ailleurs autour de ça. Elle serait arrivée à Toulouse grâce à un soldat piémontais qui aurait offert une violette, ou plutôt un bouquet de violettes, sinon ce serait un peu mesquin, à son amoureuse qui habitait à Saint-Jory, à environ 20 km de Toulouse. Et ça devient alors le gagne-pain de plus de 600 producteurs. Alors
parce qu'il lui en offrait souvent.
Oui, peut-être. Mais je pense qu'il y a surtout d'autres soldats qui ont eu la même bonne idée d'en offrir. Parce que c'est une fleur, disons, d'hiver ou plutôt très, très printanière. Elle est vendue d'octobre à mars. Elle est peu coûteuse, elle est très parfumée. Et puis les femmes adoraient l'accrocher à leur corsage. C'est une fleur qui résiste aussi jusqu'à moins 5 degrés. Donc la violette de Toulouse va être exportée dans toute l'Europe. Elle connaît même son heure de gloire jusqu'aux années 50. Et puis arrive l'hiver 1956 qui est absolument atroce, très rigoureux. Donc au même moment, il y a un petit ralentissement sur cette culture de la fleur et les producteurs vont disparaître peu à peu. Heureusement, la culture de la violette a été relancée dans les années 80 grâce à un ingénieur agronome. Il met en place un conservatoire des plantes et il crée même une association qui s'appelle Terre de Violette. Ah oui. Et chaque année, début février, eh bien, la ville de Toulouse organise la fête de la violette.
Ah oui.
Et pour les amoureux de la fleur, je voudrais quand même vous signaler qu'il y a un film culte avec Luis Mariano, Simone Valère, Carmen Sevilla qui s'appelle Violette impériale. Et le personnage principal, c'est l'impératrice Eugénie, une grande amoureuse de cette petite fleur si romantique.
Mais écoutez, je ne savais pas que Toulouse était la ville de la violette.
Moi, je savais parce que j'en ai mangé, mais je réalise qu'on ne m'a jamais offert de bouquet de violette.
Eh bien, c'est un tort. Bah oui. C'est un tort.
Maintenant, je sais la signification de cette fleur. Ça
Philippe a peut-être un bouquet caché. Là.
Ah, mais j'ai encore trop timide.
Là, je vous laisse là, parce qu'on passe sur un autre registre.
Je ne suis même pas encore au stade de la violette. Nathalie, alors, c'est bien, vous avez plein d'histoires étonnantes. Et autour du canal du Midi, vous avez quelque chose d'insolite, peut-être plus vers la Méditerranée?
Oui, j'ai une une histoire de chameau et vous savez
de
quand...
chameau.
Oui, en termes de chameau, j'en connais un rayon. Alors, c'est l'histoire d'un chameau qui a permis de repousser un envahisseur. Nous sommes le 20 décembre 1615 dans la soirée et la sentinelle qui est positionnée sur les remparts de Béziers aperçoit, parce que la lune est très très claire dans le ciel, des mouvements de troupes qui se rapprochent des murailles de la ville. Donc le capitaine de la garde, évidemment, est averti. Et puis, il va décider d'utiliser une ruse pour surprendre l'ennemi. Donc, il demande à une douzaine de ses soldats d'aller chercher le chameau de Sainte-Aphrodise. Alors, qui est ce chameau ?
Le chameau de Sainte-Aphrodise.
Alors, Sainte-Aphrodise, c'est le patron et le premier évêque de la ville de Béziers. C'est un saint qui a vécu en Égypte et qui serait parti avec son chameau pour évangéliser la Gaule.
On l'appelle... En chameau ?
Oui, en chameau. Bah, pourquoi pas ? Écoutez, chacun son mode de transport.
Ça
écoutez,
il y en a qui.
Moi, j'ai garé mon cheval. Moi, j'ai garé mon cheval devant Europe. Bon, il y en a qui arrivent en chameau. Donc, il décide d'aller chercher ce chameau empaillé qu'on sort habituellement à la fête de l'Ascension.
Ah, parce qu'il existe vraiment ?
Mais bien sûr, on a gardé l'animal et puis on l'a empaillé. Donc, il est sorti et il le sort sur les murailles, il le hisse pour qu'il soit visible immédiatement par l'ennemi. Et là, il y a 20 ou environ 25 soldats ennemis parmi les plus hardis qui commencent à positionner des échelles le long du rempart. Et le capitaine donne alors l'ordre d'élever le chameau par-dessus la muraille. Et il le fait agiter par ses hommes, exactement comme si le chameau tapait du sabot. Et évidemment, à la vue de ce qu'il pense être un monstre, les ennemis s'enfuient lamentablement.
Ah,
le capitaine en profite. Il donne l'ordre de tirer avec les mousquets sur les assaillants, de lancer des pierres sur leurs échelles. Il y en a 30 d'entre eux qui restent sur le carreau. Et le reste de la troupe, pris d'un grand désarroi, prend la fuite dans la confusion et sous la risée des soldats biterrois.
Ah, c'est dingue, c'est Game of Thrones avant l'heure.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est fou ça. Des histoires de miracles, vous avez ça ?
Oui, un petit vinaigre, pas pour la salade. Pas du tout pour la salade. Parce que Toulouse, comme Marseille et bien d'autres villes, sont malheureusement souvent victimes d'épidémies de peste dans leur histoire. Et alors, moi, je vais vous parler du vinaigre des quatre voleurs. Alors, selon la légende, durant une épidémie de peste, il y a quatre voleurs, détrousseurs de cadavres qui sont arrêtés. On est au XVIIe siècle et on ne comprend pas pourquoi ces voleurs sont en bonne santé alors qu'ils sont en contact avec des morts et que la peste est quand même une maladie très, très contagieuse. Et là, on leur fait avouer, parce qu'on leur dit, bon, si tu ne veux pas être torturé, tu vas nous dire ton secret, évidemment. Ils avouent, parce que les tortures à l'époque, j'aime autant vous dire que ce n'était pas bien drôle. Et ils expliquent...
C'est rarement drôle.
Oui, c'est rarement drôle. C'est, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus sympa. Mais je pense qu'à l'époque, ils étaient vraiment recordman. Hein. Donc, avant de toucher les corps des pestiférés, ils avouent qu'ils se frictionnaient d'une décoction à base de vinaigre, d'ail et de plantes aromatiques, et qu'ils en buvaient aussi chaque jour. Et il faut bien dire que le vinaigre a des propriétés antiseptiques. Et puis, il dégage surtout une odeur. Enfin, ce vinaigre des quatre voleurs, parce qu'il a été appelé comme ça, dégage une odeur capable de couvrir même celle des morts, pour vous dire l'efficacité de la chose.
Et c'est quoi la composition ?
De l'absinthe, du romarin, du roseau, de la sauge, de la rue, c'est une plante, du camphre, du clou de girofle, muscade, cannelle, vinaigre blanc et beaucoup, beaucoup d'ail. Enfin, de quoi faire se relever un cimetière, hein, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, on peut toujours admirer un bocal avec l'étiquette portant ce nom, hein, vinaigre des quatre voleurs, dans la pharmacie jésuite du XVIIe siècle qui est exposée au musée Paul Dupuis de Toulouse.
Très bien, ben voilà de belles histoires. Merci Nathalie. Dans un tout petit instant, miam miam, avec Emmanuel Jarry. Tout ce qui est bon le long du canal du Midi. A tout de suite sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes le long du canal du Midi, on est pas mal, on apprend plein de choses, on écoute des histoires et on va manger maintenant. Alors ce que j'adore avec le canal du Midi, c'est qu'on pourrait l'appeler tout simplement la route du cassoulet.
Oui.
Parce que finalement, il est fait tous.
On peut pas y échapper. Oui, mmh. Et on va de ville en ville, de cassoulet en cassoulet.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que...
C'est Emmanuel Jarry qui vous parle, j'ai oublié de le préciser quand même.
En fait, c'est un plat qui est omniprésent dans l'assiette, mais même dans la pensée. Vous voyez, on se pose toujours plein de questions. On se dit quel est le meilleur cassoulet ? Qui a la paternité du cassoulet ?
Ouais.
Entre Castelnaudary, Toulouse ou Carcassonne ? Quel haricot utiliser ? Le tarbet ou le lingot de Castelnaudary ? Tout ça, vous voyez, c'est des questions importantes,
mais
Philippe,
essentielles.
Qui animent les repas dans la région, puisque les Français, on le sait, aiment bien parler cuisine en mangeant.
Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est les réponses.
Alors voilà, il y a trois grandes écoles. Le cassoulet de Castelnaudary, on met des haricots lingots de Castelnaudary, du confit canard, plein de morceaux de porc, de l'échine, des couennes, de la poitrine, etc.
Comment vous dites des couennes, vous ?
Des couennes, on dit.
Ah, des couennes, ouais,
moi, je dis des couennes.
Ah, Ah oui, c'est mon accent lyonnais peut-être, je sais pas.
Mais à Lyon, on dit des couanes.
Je sais pas. Mais je dis du persil et pas du persil. Il y a plein de choses comme ça. Alors des couanes.
Je sais plus, des couennes,
etc. Et, etc. Bah non, du jarret de porc, de l'oignon, bouquet garni, assaisonnement. Ça, c'était Castelnaudary. Le cassoulet de Carcassonne, on met tout ça, on rajoute de la perdrix rouge.
De la perdrix rouge?
Oui, monsieur. Ouais, délicieux. Et le cassoulet de Toulouse, on met de l'agneau, du mouton, et en fin de cuisson, on met des couennes, du confit de canard, et avant de le passer au four, on le couvre de saucisses de Toulouse.
Ah, il est plus gourmand, celui de Toulouse, alors?
Oh, bah, je sais pas, parce qu'il y a peut-être plus de porc dans celui de Castelnaudary, vous voyez. Enfin, parce que là, tout de suite, vous portez un jugement de valeur,
vrai,
et ça,
bien.
C'est pas bien,
c'est
parce qu'on nous écoute peut-être là-bas, Excusez-moi, amis
de Castelnaudary, je vous demande pardon.
Voilà. Donc, en plus des variantes régionales, on a évidemment des variantes entre familles. Vous voyez, moi, j'ai souvent entendu le meilleur cassoulet, c'est celui de ma grand-mère.
Oui.
Et c'est sûrement vrai, d'ailleurs, parce que le meilleur cassoulet, c'est toujours celui de l'enfance. Moi, mon meilleur cassoulet, alors là, je risque de choquer encore, c'est à Paris, dans le 14e arrondissement. L'assiette, il y a un chef, par exemple.
Alors hier, vous avez égorgé un chevreau. Aujourd'hui, le meilleur cassoulet, c'est à Paris.
Mais je
vous allez
dis
vous faire
parce
virer.
Que, parce que ce chef met des mojettes de Vendée à la place des haricots tarbets, parce qu'il dit c'est plus moelleux. Donc, vous voyez, c'est vraiment un scandale. C'est hérétique, mais c'est bon quand même.
Ah oui.
Donc, moi, ce que je trouve important dans le cassoulet, c'est que, en fait, d'où vient ce mot? C'est qu'il doit être cuit dans une cassole. Et là, on met tout le monde d'accord. Un bon cassoulet doit être cuit dans une cassole.
Mais qu'est-ce que c'est une cassole?
Alors, une cassole, c'est un plat en terre cuite qui a donné donc le nom au plat, au cassoulet. Et quand vous arrivez à Masma, alors là, est-ce qu'on prononce les S? Sûrement pas. À Massaint-Poel, à côté de Castelnaudary, vous avez la poterie Note qui transforme encore l'argile en cassole. Et en fait, ce qu'on vous explique là-bas, c'est que tout ce qui est cuit dans la terre, c'est meilleur. Donc, si vous faites un cassoulet dans du verre, il n'aura pas le même goût. C'est la même chose pour les tomates farcies, les gratins, vous voyez, tout
vraiment
ça. Ah oui, ça, je pense que c'est vrai. Ah. Et puis, alors la cassole, elle a une forme spéciale qui fait que ça glougloute d'une certaine manière.
On y est là.
Ouais, c'est ça. Et donc,
il faut que ça glougloute longtemps. Hein.
Ah oui.
Parce qu'un cassoulet mal cuit, il n'y a rien de pire.
Ah non, puis il faut casser 7 fois la croûte. Donc vous voyez, ça forme une petite croûte à la cuisson. Vous la cassez une fois, ça tombe dedans, ça épaissit la sauce. On dit, ce qui veut dire, même si on ne le fait pas 7 fois, que c'est une cuisson très lente.
Ouais.
Et très longue, pardon. Et donc voilà, il y a cette belle poterie Note. J'aime bien ces endroits parce qu'elle est classée entreprise du patrimoine vivant.
Ah,
parce
oui.
que vous voyez, elle cultive tout un savoir-faire ancestrale, elle cuit encore ses cassoles dans des fours en bois. C'est la seule poterie en France qui fait ça. Ça met 36 heures à cuire. Mmh. Alors voilà, si vous voulez vous lancer dans le cassoulet maison, faites un détour par la poterie Note pour réussir votre cassoulet.
Très bien. Alors quand on a mangé un cassoulet, deux cassoulets, trois cassoulets, qu'on fait 2 jours de pause parce que
ça,
il faut le temps pour le digérer.
Est-ce qu'on jeûne ou est-ce qu'on
voilà comment ça se passe?
Ou est-ce qu'on mange autre chose? Alors si on en a marre des haricots, on peut manger un peu de riz parce que il y a du côté de Marseillette, il y a un producteur de riz. Donc là, on a dépassé Carcassonne, on se rapproche de l'étang de Thau et c'est un riz qui est cultivé dans l'ancien étang de Marseillette. Donc il y a une eau saumâtre, alors donc moitié douce, moitié salée. Enfin, elle est douce en surface et puis salée dans le sol. Le sol est riche en sodium, donc ça lui donne un petit goût particulier. Et en fait, c'est une culture qui a connu des hauts et des bas parce qu'elle a suivi les crises viticoles. Après la crise du phylloxéra, on a planté ce riz. Après, la production a diminué. Puis elle est repartie depuis les années 1980. Donc voilà, c'est une petite production, 100 hectares pour 20 000 hectares en Camargue. Mais elle est là, elle existe. Donc c'est important de la signaler parce qu'on la connaît peu. Et moi, je dis, quand on se balade le long du canal, on a envie de faire des emplettes. Vous voyez, on a déjà acheté une cassole. Ouais. Maintenant, on achète un petit peu de riz.
Et j'imagine qu'il y a un label, c'est protégé IGP ou...
Je crois pas.
Non, pas sûr.
Non. En fait, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul producteur.
De riz?
Oui,
de riz.
À Marseillette.
Un petit riz tout seul, c'est pas folichon quand même?
Oui, mais alors là, pas de problème, parce qu'on se rapproche de l'étang de Thau, et vous savez qu'il y a une grosse production d'huîtres et de moules sur l'étang de Thau. Donc là, je vous donne une petite adresse. C'est vraiment un gros coup de cœur à Loupian, en face de Sète. Vous êtes dans la zone conchylicole. Donc là, tout de suite, dit comme ça, ça fait pas rêver.
Non.
C'est là où on travaille les coquillages. Vous arrivez face à un hangar, il faut traverser ce hangar, et là... Vous arrivez sur une très grande terrasse qui est face à l'étang. On peut déguster les huîtres crues, mais on peut déguster aussi des huîtres gratinées avec une petite fondue de poireaux.
Ah, des huîtres gratinées.
Ah, c'est délicieux. Ouais. Ah non, mais là-bas,
j'ai
vraiment.
J'ai peur, moi, des huîtres chaudes.
Non. Bah, alors là,
même Nathalie fait la grimace.
Non,
je vois.
Mais après, chacun ses sales goûts. Hein, mais c'est mon expression favorite, vous savez.
Oui.
Non, c'est vrai que pour moi, l'huître, c'est tellement bon, tellement. Ce shoot, vraiment iodé comme ça, quand on l'a.
prends... de le cuire et de le mélanger.
Moi, je l'aime vraiment nature. Non, elle sort du truc et voilà.
Alors, vous allez à Loupian, chez Atelier & Co. Et vous allez changer d'avis sur l'huître parce que justement, ce côté iodé, vous le retrouvez. C'est quand même des huîtres qui sortent juste de l'eau. Enfin, elles sont après un petit peu filtrées parce que c'est nécessaire pour les huîtres. Donc, c'est comme si vous mangiez à la ferme. Vous savez, c'est les fermes marines, en fait. Mmh. Mais voilà. Donc, vous avez des huîtres gratinées à la fondue de poireau. Je les ai goûtées. C'est délicieux. Il y a des moules farcies à l'ail rose de Lautrec. On en a parlé. C'est un ail qui est très doux. Mmh. Donc, ça masque pas le goût du coquillage. Et puis, vous avez la brazoucade. Alors, ça, c'est des moules qu'on fait revenir sur une plaque et on leur ajoute une sauce, chacun à la sienne. Laurent Arcilla, qui est le propriétaire du restaurant, il met du persil, des oignons, du vin blanc. Voilà. C'est calme. Le ciel est bleu. Vous avez une magnifique vue sur l'étang. Vous buvez un petit verre de pitpoul de Pinès et le vin blanc local.
Oui, il est bon,
vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'autrefois, c'était un cépage qui n'était pas apprécié. Il n'y a que les poules qui le piquaient.
Ah, aujourd'hui, c'était le pitpoul.
C'est ce qu'on dit. Tout le monde l'adore. Voilà. C'est un très bel endroit. Alors, pour terminer la promenade, une fois que vous avez remonté le canal ou descendu, je ne sais pas, Jean-Bernard, si on monte ou dans ce sens-là, vous terminez par cette petite dégustation de coquillage et vous êtes très content.
Bah, on vient de noter ça dans notre carnet gourmand.
Absolument. Vous donnerez ça dans vos bons tuyaux de l'année prochaine sur le canal du Midi. Merci beaucoup, Emmanuel Jarry, pour toutes ces bonnes petites astuces. Dans un instant, donc, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour découvrir au mieux le canal du Midi. Et là, tout de suite, pour se détendre, la tribu de Pierre Perret au Café du Canal sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Alors, nous sommes sur le canal du Midi, bien tranquillement.
Et tranquillement.
Très bien, on y est bien. Mais en vrai, on ne sait pas par où commencer, parce que le canal du Midi, c'est très long. Ouais. Donc, vous l'abordez comment, vous? Comment vous faites?
On va parler plutôt du
Jean-Bernard
moyen...
Jean-Bernard Carrier, j'ai oublié de donner votre nom.
Ouais, bah, c'est pas grave, Philippe. On va plutôt parler du moyen de le découvrir. En fait, l'idéal, bah, c'est de louer ce qu'on appelle une pénichette.
Ah, ça, c'est
une
super.
Toute petite péniche, pas besoin de permis, c'est génial. Mm-hmm. La prise en main dure 45 minutes. Et hop, ça y est, vous êtes parti sur le canal du Midi. L'intérieur de ces pénichettes est super bien aménagé. On a l'impression d'être dans une espèce de camping-car amélioré. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc c'est pas mal du tout. Il y a un côté bulle, très rassurant. Moi, j'adore me sentir dans ce cocon. Et on se laisse glisser au fil de l'eau, 6 km/h en moyenne.
Ah oui, alors ça, c'est peut-être un peu le problème quand même. C'est pas un peu lent?
Alors, c'est plus vite que la marche et plus lent que le vélo. Voilà. Donc c'est une espèce de formule intermédiaire.
Mais est-ce que c'est pas un peu long des
fois? Non, moi, je trouve pas. Parce qu'ensuite, ce que vous pouvez faire, vous avez le temps d'échanger avec les plaisanciers, avec les éclusiers, avec les pêcheurs qui sont en train de pêcher sur le bord. Donc ce que vous appelez la lenteur permet justement une forme de convivialité. C'est la vraie Dolce Vita le long du fleuve. Voilà. Mm-hmm. Donc il y a plusieurs bases de location de bateaux. Vous pouvez louer à partir de Carcassonne notamment. Et vous pouvez avoir des durées modulables, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Moi, je conseille 1 semaine. C'est
une
la
semaine,
ouais, une semaine, ouais. Et il faut compter à peu près 1 300 € la semaine pour un bateau de 4 personnes, à partir de, selon le degré de confort. C'est comme les camping-cars, vous avez tous les styles.
Mais on se pose la nuit, on dort sur le canal?
Ah ouais, vous dormez sur le canal. Il y a même des vélos qui sont à bord. Avec le vélo, vous pouvez vous échapper, aller visiter des choses ailleurs.
Faire des courses.
Donc c'est très modulable, c'est souple comme formule. C'est souple et c'est doux et c'est lent. Tout ce qu'on aime, Philippe,
c'est ce
dans
qu'on
cette
adore.
Émission.
Quel programme alléchant. Il y a d'autres options, peut-être un petit peu moins chères ou plus
alors moins
variées.
Cher, il y a le vélo à assistance électrique, les berges du canal, ce qu'on appelle le chemin de halage, c'est aménagé pour justement les piétons et les vélos. Donc si vous n'avez pas envie de louer une pénichette ou pas les moyens, vous pouvez louer un vélo et longer ce canal. Tout est aménagé pour ça.
Et ça va plus vite.
Et ça va plus vite.
Il y a toutes les villes qui sont le long du canal et c'est difficile de choisir. Il y a les petites merveilles, il y a Carcassonne. Moi,
Carcassonne, c'est plus qu'une merveille. C'est une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a des centaines de milliers d'étrangers qui viennent la visiter. C'est la poupée Barbie tourisme.
La poupée Barbie
du tourisme dans l'Aude.
Je sais pas comment vont le prendre les Carcassonnais.
Pour dire voilà, c'est l'attraction touristique majeure. C'est une ville fortifiée qui domine toute la plaine de l'Aude. On dirait vraiment le château fort de notre enfance. Ouais. Donc, moi, j'ai adoré rentrer par la grande porte principale. Je crois que c'est la porte narbonnaise, si mes souvenirs sont bons. J'avais l'impression d'être dans un espèce de décor de Moyen-Âge avec des chevaliers en armure qui allaient arriver. J'ai gardé un souvenir très, très prenant de cette visite. Même si, effectivement, en pleine période estivale, il y a énormément de monde à l'intérieur de cette cité fortifiée, je conseille plutôt d'y aller très tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque les bus sont partis. Et là, vous aurez la ville pour vous.
Et alors, ce qu'il y a de bien avec le canal du Midi, c'est qu'en lui-même, c'est un prodige, c'est une merveille, il se visite.
C'est lui-même est une attraction, vous venez de le dire. Il y a des ouvrages d'art qui sont très marquants. Et celui que j'ai préféré, je pense que vous le connaissez peut-être, Philippe, ce sont les écluses de Foncerane qui se trouvent à Béziers. C'est juste à côté de Béziers, 1 km. C'est vraiment là aussi une prouesse d'architecture. C'est très spectaculaire. En fait, pour le décrire, c'est une succession de 9 écluses sur 300 mètres. On dirait, de loin, on dirait un escalier d'eau.
Un immense escalier d'eau,
voilà.
Exactement.
C'est un escalier d'eau, parce qu'en fait, il y a un gros dénivelé. Ça fait quand même plus de 20 mètres de dénivelé. Et en 300 mètres, vous passez, vous gagnez 20 mètres. Donc, il a fallu construire 9 écluses. Donc, et simplement de vous mettre au bord, là, et de regarder le passage des bateaux, rien que soi, c'est déjà un spectacle. Et vous voyez toute cette eau qui jaillit, qui bouillonne. C'est impressionnant et c'est rafraîchissant. Et en plus, la nuit, ce qui est super, c'est que ces 9 écluses, elles sont éclairées. Il y a un très beau jeu de lumière qui a été mis en place il y a quelques années. C'est vraiment une ambiance magique.
Ouais, c'est magique. Après, à passer en bateau, je ne sais pas combien de temps on met pour passer les 9 écluses, mais ça doit pas
Met du temps. Ça met du temps. Après, ça dépend aussi des éclusiers, ça dépend du trafic fluvial, mais vous y passez quelques heures.
Ouais. Pour Toulouse, vous avez des suggestions ?
Toulouse, c'est une ville que j'adore. Il y a énormément de musées à visiter, certes, mais j'ai envie de dire, comme on est à Toulouse, c'est la capitale de l'aéronautique, le berceau de l'aviation. Moi, je recommande vivement la visite de la Cité de l'espace, qui est consacrée à l'aventure spatiale. L'espace, c'est vraiment dans l'ADN de la ville. Moi, j'ai adoré cette visite-là. J'y ai passé une journée il y a 2 ans. C'est un parc thématique qui fait 5 hectares, donc c'est vraiment très grand. À l'extérieur, il y a des prototypes du satellite Spoutnik. Il y a une maquette, tenez-vous bien, une maquette grandeur nature de 53 mètres de haut de la fusée Ariane 5.
Ah ouais.
Et il y a même un module de la station orbitale Mir dans lequel je suis rentré. On peut rentrer, vous avez l'impression de vous prendre pour un astronaute ou un cosmonaute.
Marrant,
c'est assez étonnant. Et à l'intérieur, il y a une animation qui est super, que j'aime beaucoup. Il y a un simulateur qui reproduit la sensation d'une marche lunaire. Vous savez que sur la Lune, la gravité est moins élevée. Ouais. Vous êtes attaché avec un harnais qui vous suspend un petit peu. Vous avez l'impression d'être 6 fois plus léger que vous l'êtes sur Terre. Ah ouais. Et il y a le sol de la Lune qui est reconstitué. Et vous avez, donc, c'est un simulateur qui vous permet de faire l'astronaute qui marche sur la Lune. Vous avez la même sensation que Neil Armstrong quand il a foulé.
Vous avez fait des bonds,
Oui, vous faites des bonds. Vous êtes suspendu par un élastique, donc vous êtes moins. Ça vous soulage de votre poids, en quelque sorte, et vous êtes comme un astronaute qui rebondit sur ce sol. C'est très étrange.
Très bien.
Voilà, tout ça se passe à la Cité de l'espace.
Merci Jean-Bernard. Une petite pépite pour finir.
Il ne faut pas la louper. On a parlé de l'ancienne cité Qatar de Minerve, qui est obsessive. Alors elle n'est pas directement au bord du canal. Il faut faire 1 heure de vélo depuis le canal du Midi. C'est une ancienne cité médiévale qui est sur un éperon rocheux. On dirait vraiment un navire de pierre qui est enserré dans 2 vallées. Et ça, c'est vraiment, en visuel, c'est extrêmement impressionnant. C'est une de ces belles pépites médiévales que vous pouvez rejoindre à partir du canal de Midi. Ça se trouve dans l'Aude, cité de Minerve. Et il y a très bon vin à côté, ce qu'on appelle le Minervois.
Très bien. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose, c'est dingue. Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h, je vous emmènerai dans un pays absolument magnifique, parmi les plus beaux paysages d'Europe et peut-être du monde. Le pays des fjords et des îles glacées. Nous partirons en Norvège. A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait 2e heure, vous l'avez compris, c'est le moment de lâcher prise. C'est l'été, on oublie tout. Il suffit de se laisser faire, de se laisser emporter. En ces jours de chaleur, je vous emmène là où il fait frais. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Quand on pense à la Scandinavie, on pense à la Laponie, aux rennes du Père Noël, à la petite sirène de Copenhague. Mais on dit rarement qu'il y a là-bas un des pays les plus spectaculaires d'Europe. C'est le pays des sommets enneigés qui plongent jusque dans la mer. Le monde des fjords solitaires, majestueux. Je vous emmène en Norvège. Pour imaginer la Norvège, il faut se rappeler que ce pays est le plus montagneux d'Europe. La moitié de son territoire est couvert par des montagnes qui grimpent à plus de 2400 mètres. Des sommets et des vallées incroyablement profondes, des vallées creusées par la pression monumentale d'anciens glaciers. Et ces vallées profondes, elles vont jusqu'à la mer. Et donc la mer s'est engouffrée à l'intérieur. Elle envahit toutes ces vallées. Et cela donne les fjords. Les fameux fjords norvégiens. Et ils ne sont pas fameux par hasard. Ce sont des paysages uniques. car la mer par ses fjords, elle rentre, elle s'insinue dans les terres très très loin, jusqu'à 200 km à l'intérieur du pays. Des bras de mer qui serpentent au milieu des montagnes imposantes qui les dominent. L'impression que j'ai eue en naviguant au fond de ces fjords, qui sont si profonds et parfois si étroits et sombres, c'est comme d'être écrasé par les flancs de montagne qui les surplombent à droite et à gauche. Des flancs qui peuvent grimper à 1400 mètres au-dessus de l'eau et plonger de plus de 1000 mètres sous l'eau. Le spectacle est saisissant, parfois sombre, silencieux. C'est l'une des sept merveilles de la nature. Et au milieu de ce spectacle majestueux, solitaire, il y a quelques rares fermes accrochées sur les flancs de montagne, quelques chèvres sur les hauteurs. Il faut être un grand solitaire pour habiter là. Et le principal moyen de se déplacer, c'est le bateau, dans le fond du fjord. Les routes, elles mettent des heures pour passer d'un fjord à l'autre, tellement les montagnes qui les séparent sont élevées. Les paysages dramatiquement puissants, le calme absolu, la lumière sombre au fond des fjords, font de la Norvège un spectacle unique. Mais le calme cache un terrible danger. On en parle peu, mais les Norvégiens connaissent bien cette menace. Les flancs de montagne qui tombent à pic dans les fjords sont parfois instables. Donc imaginez que tout à coup, un pan entier de montagne se décroche. Et que des millions de mètres cubes de rochers chutent de 700, 800 ou 1000 mètres dans le fjord. Des millions de tonnes de rocs qui dévalent dans l'eau du lac qui dormait paisiblement. Alors évidemment, c'est un danger pour les gens qui naviguent par là ou qui habitent à proximité immédiate, mais bien plus encore. Car qu'est-ce qu'il va se passer lorsque les rochers vont toucher l'eau ? Des vagues. D'énormes vagues vont naître, des montagnes d'eau vont se soulever, coincées entre les deux montagnes. Et comme elles sont coincées, elles vont prendre des proportions énormes. Et elles avancent. Les vagues avancent encore, détruisant tout sur les côtés, là où il y a des fermes et parfois des villages entiers. En 1934, une catastrophe de ce type s'est produite. Une vague de 62 mètres de haut a surgi. 62 mètres, elle a fait 40 morts. Le prochain tsunami sera peut-être norvégien.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous partons encore plus loin dans la Norvège. Dans quelques instants.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tous les après-midi, un grand voyage sur Europe 1. Nous sommes en Norvège. Jean-Bernard Carrier, la Norvège, pour la situer parmi les pays scandinaves, là-haut.
Eh ben c'est tout en haut, vers le Cap Nord. Ouais. Alors, il y a quand même une grande caractéristique dans ce pays, c'est qu'il mesure, tenez-vous bien, 2518 km du nord au sud. Ça, c'est la première grande caractéristique.
Ça veut dire qu'en gros, du nord au sud de la Norvège,
c'est 2500 km.
C'est en gros la distance de Paris au Sahara, pour se rendre compte.
Voilà, Paris jusqu'au Maroc, j'allais dire, c'est à peu près ça. Ouais. Alors, il y a un deuxième chiffre qui va vous donner un petit peu le côté hors norme de ce pays, c'est que la Norvège a la huitième plus longue côte du monde. Si on la mettait en ligne droite, les traits de côte, ça ferait deux fois et demi le tour de la Terre.
Oui, parce qu'elle est extrêmement découpée.
Elle est complètement déchiquetée, échancrée par tous ces fjords. Donc c'est une espèce de dentelle de pierre. Ouais. C'est les noces de la pierre et de l'eau. C'est absolument phénoménal. C'est la grande attraction de cette Norvège.
Mais c'est d'une beauté à tomber par terre.
C'est époustouflant.
C'est magnifique.
Je crois que, comme vous, j'ai parmi mes meilleurs souvenirs de voyage dans ce pays, en termes de nature, en tout cas.
Alors après, c'est austère, c'est froid, c'est rude, c'est solitaire.
C'est solitaire, mais il y a quand même le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream qui réchauffe la côte. Donc, ce n'est pas non plus un climat trop dur comme la Sibérie. Mm-hmm. Le Gulf Stream réchauffe la côte, là où la plupart des villes sont situées. Donc, en hiver, vous n'avez jamais non plus des températures extrêmes le long de la côte, encore une fois.
Enfin, vous n'attendez pas non plus à faire trempette trop souvent. On va y venir.
Ouais,
on vous retrouvera tout à l'heure, Jean-Bernard, pour nous donner les bons conseils pour visiter ce pays. Pour l'instant, nous sommes avec Laure Lou Desjardins, qui est écrivain, journaliste et installée depuis 11 ans à Oslo. Alors, si j'ai bien compris, Laure Lou, bonjour.
Bonjour.
C'était pas du tout un pays qui vous attirait au début et ça a été un coup de foudre. Vous avez décroché un travail en Norvège, vous deviez y rester 18 mois, puis ça fait 11 ans que vous y êtes. Vous êtes juriste.
C'est ça.
En parallèle, vous écrivez pour des journaux norvégiens. Comment c'est la vie dans ces territoires de fjords montagneux, solitaires, sombres, où il y a des dangers comme ça? Ce mélange de solitude et de beauté, comment on vit à l'intérieur?
Alors, je pense que ça dépend vraiment où on vit dans le pays. Si on vit à Oslo, on peut vivre dans un quartier très urbanisé comme à Grünerløkka à Oslo, où là, on sent pas du tout les dangers dont vous parliez tout à l'heure. Ou on peut vivre dans un petit village, comme vous disiez, ou même une petite maison isolée dans un fjord. Et là, par contre, ça devient, comme vous dites, beaucoup plus hostile. Et on est beaucoup plus soumis aux intempéries, aux tempêtes, plusieurs mètres de neige en hiver, etc. Donc je pense que ça dépend vraiment où on vit. Mmh. Mais c'est sûr que dans tous les cas, on est beaucoup plus proche de la nature qu'on peut l'être dans la plupart des régions françaises, je pense.
Ouais. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce pays immense, on l'a compris avec Jean-Bernard il y a un instant, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je crois que c'est 5 millions de personnes dans cet immense territoire.
Ça.
Donc on peut trouver un coin tranquille.
Ah oui, il y a beaucoup de coins tranquilles. Même dans les zones les plus peuplées, on trouve énormément de coins tranquilles. On marche. Moi, j'habite en banlieue d'Oslo. Je marche une demi-heure. Je peux dormir là pendant des semaines sans croiser personne.
En banlieue d'Oslo.
Ah, ça fait rêver, oui. Ça. Ouais. Ça, c'est le paradis, ça, pour moi. Être dans une ville et avoir la nature juste à côté. Ouais.
C'est vraiment un pays de nature. Et pour continuer à évoquer les fjords, on parlera d'Oslo bien sûr tout à l'heure, les gens qui habitent dans ces fjords, il faut savoir qu'ils sont très isolés parce qu'un fjord, c'est d'abord évidemment de l'eau, un bras de mer, mais au-dessus, il y a de la montagne, une montagne très élevée. Et pour rejoindre un autre fjord, soit vous y allez en bateau en faisant des détours dans les bras de mer, soit vous y allez en voiture, mais ça dure des heures et des heures et des heures. Et vous pouvez être vraiment très, très, très isolé.
Exactement, et c'est surtout criant en hiver. Et par exemple, quand la Norvège était un peu moins riche et n'avait pas autant de routes, ça pouvait, si la communication en bateau était coupée à cause d'une tempête, ça pouvait être un isolement pendant des semaines. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la Norvège est très riche en dialectes, et ils disent justement que c'est pour ça, c'est parce que chaque petit endroit dans chaque petit fjord a développé son propre dialecte norvégien sans grand contact avec le reste de la population, et donc ils parlent leur propre petit dialecte, et il y a quand même comme ça des centaines de dialectes en Norvège.
Ils se comprennent les uns les autres ?
Alors, ils se comprennent, par contre, pour nous, étrangers apprenant le norvégien, ça prend quelques années avant de bien comprendre tout le monde.
Il y a toujours un goût très prononcé des Norvégiens pour la nature.
Oui.
On aime le camping sauvage, on aime quoi ?
On aime le ski de fond. On aime alors le ski de fond et toutes sortes de skis. Il y a plein de types de skis, bien sûr. Beaucoup de camping ou de juste de mettre son hamac entre deux arbres en pleine nature. La pêche en été ou en hiver. Donc ils font des trous dans la glace pour pêcher aussi en hiver. Ils ont même inventé un sport. Alors ça, c'est une des choses qui m'a le plus surprise quand je suis arrivée ici. C'est une chaise avec des espèces de lames, comme des immenses lames de patins à glace sous la chaise, et ils partent comme ça sur les lacs gelés.
Ah bon ? Et qui pousse la chaise ?
Je vois la scène.
Des gens, mais justement, c'est le sport. La personne pousse la chaise. C'est aussi un mode de transport qu'ils utilisaient à l'époque. Donc, ils mettaient des choses sur cette longue chaise avec leurs enfants. Enfin bon.
Attends,
la première fois que j'ai vu
compris,
ça à Oslo, j'ai complètement halluciné.
Il y a des enfants assis sur la chaise et le sport, c'est de pousser la chaise, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça. En fait, c'était un mode de transport, c'est devenu un peu un semi-sport. Et c'est ça, ils mettaient leurs enfants et plein de choses comme ça sur la chaise.
Nathalie ?
Alors, la première fois que j'ai vu ça, j'ai lu sur ça, la première fois que j'ai vu ça sur un lac gelé à Oslo, j'ai complètement halluciné de voir ça. Ouais.
C'est la variante senior du patinage artistique, en fait, votre histoire.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a un endroit qui est vraiment sublime en Norvège. Alors, tous les fjords, moi, je les trouve magnifiques. Mais il y a les îles Lofoten. Parlez-moi des îles Lofoten.
Alors, moi, j'ai fait du vélo seul dans les îles Lofoten il y a à peu près 10 ans. J'ai fait les îles Lofoten du sud au nord. Et alors, c'est effectivement un endroit extraordinaire. Il faut dire que c'est... Alors, j'ai fait quelques recherches. Donc, ça s'étend sur 1200 km². Pour un ordre de grandeur, Paris fait 12 000 m².
Ouais.
Donc, c'est le dixième de la surface de Paris. Il y a environ 20 000 personnes qui vivent là, donc c'est encore moins de personnes, densité de population qu'ailleurs en Norvège. Et c'est effectivement extraordinaire. Il y a des paysages comme ça, qui nous font penser pratiquement à une autre planète.
Ouais, faut imaginer. Je dis souvent que c'est comme des montagnes, des Alpes, qui auraient les pieds baignés dans les eaux turquoises, comme aux Caraïbes.
Exactement.
Parfois. Et ça, c'est
ça, exactement.
Et il y a même de très très belles plages de sable blanc.
Mmh. Ouais.
Et c'est avec l'eau turquoise. Alors par contre, elle est froide. Hein. C'est pas la même température qu'aux Caraïbes.
Ouais. Emmanuel.
Mais on voit des scènes parfois étonnantes avec les animaux qui montent sur les toits des maisons sur lesquelles il y a de l'air pour brouter des chèvres ou des
moutons. C'est ça, oui.
Oui, parce qu'il y a de l'air sur les toits parce que ça sert d'isolant.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Tout à fait. Ouais. On continue à parler de la Norvège avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes toujours en Norvège. Et alors, la particularité de ce pays très nordique, vous l'avez compris, c'est que selon la latitude, en hiver, parfois, le soleil ne se lève plus. Il fait nuit tout le temps. Et en été, il ne se couche jamais. Et ce sont vraiment deux moments très, très particuliers. Et ils ont, dès la première fois que vous les vivez, moi, je trouve qu'ils ont un impact physique sur votre corps. Vous les ressentez, ces moments très particulier auquel on n'est pas habitué sous nos latitudes. Le soleil de minuit, par exemple, ça c'est un spectacle qu'on a du mal à concevoir ici. La première fois que vous voulez vivre un soleil de minuit, en général, souvent vous grimpez sur une colline, hein, vous partez avec des amis, ou sur une montagne pour avoir une vue dégagée, et puis vous attendez. Alors, généralement, vous arrivez vers 23h30 hein, pour être sûr de ne pas le rater, et puis vous ouvrez les yeux, vous asseyez sur un tronc d'arbre, et puis vous attendez. Et puis alors, vous voyez le soleil qui, petit à petit, se couche, comme chez nous. Hein, ça fait un gros soleil orangé qui se couche sur l'horizon. Il se pose délicatement sur le lointain. Donc, ambiance de soir, ambiance de coucher de soleil, sauf qu'il est minuit moins une. Et là, vous attendez les yeux écarquillés. Alors, évidemment, avec les amis, on se réjouit, on trinque, on boit un coup. Il est minuit, c'est le soleil de minuit, il est devant nous. Mais le moment le plus fort, c'est juste après. Parce que quelques instants, quelques secondes après, eh bien, le soleil se lève. C'est-à-dire que immédiatement après vous avoir donné la sensation qu'il se couchait, et juste après avoir vu le soleil se poser sur l'horizon, vous le voyez glisser sur l'horizon, puis remonter, et à minuit 5, il est déjà plus haut. Et c'est étonnant. Et c'est un grand moment. Et je ne sais pas pourquoi, mais instantanément, l'ambiance change. C'est-à-dire que, en quelques secondes, vous passez d'une ambiance soir à une ambiance matin. Là, tout de suite, instantanément. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est psychologique, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'orangé du soleil. J'ai l'impression que c'est un orangé qui passe du chaud au légèrement plus froid. C'est quelque chose de subtil, mais tout à coup, en une fraction de seconde, le corps comprend que la journée commence.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
La journée commence à minuit 2. Et c'est... Bon, après, ce qui n'empêche pas, c'est que 2-3 heures après, vous êtes bien fatigué ouais. parce qu'il est 3 heures du matin et il fait plein jour. Et là, c'est plus compliqué.
Cas, c'est une expérience très. Vous l'avez très bien raconté, Philippe, c'est une expérience extrêmement déstabilisante.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Et il faut le vivre une fois dans sa vie.
Ouais. Comment Laurelou Desjardins, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis la Norvège, vous êtes écrivain journaliste, vous vivez là-bas depuis 11 ans. Comment vous la ressentez, vous, la journée perpétuelle ? Est-ce que. Moi, je trouve que. Au fond, autant le soleil de minuit, c'est spectaculaire, autant être tout le temps dans le jour, c'est assez épuisant, en fait.
Tout à fait, c'est un peu épuisant. C'est sur, ce qui est difficile, c'est surtout tout l'hiver, on rêve que d'une chose, c'est d'avoir plus de luminosité. Ouais. Et quand elle arrive, il y a presque trop de lumière. Vous voyez, c'est un peu étrange comme, ouais. Ouais, comme système. Mais c'est très agréable aussi, parce que ça veut dire qu'après le travail, on peut aller faire un pique-nique jusqu'à 11h minuit et sur une île par exemple et on se rend même pas compte, il fait toujours jour, on peut prendre des bateaux. Moi j'ai même fait du vélo la nuit, alors on arrive en bateau à 1h du matin par exemple sur les îles Lofoten, ça pose pas de problème puisqu'il fait grand jour, alors on peut faire du vélo jusqu'au prochain village, c'est pratique aussi.
Et alors la nuit éternelle, vous la vivez comment ?
Alors ça c'est assez difficile je dois dire pour le moral, on devient un peu fatigué. Et on devient quelquefois un peu déprimé.
Vraiment ? Ça arrive vite, ça ?
Disons que le premier hiver, ça passe encore, mais oui, il faut avoir une petite routine, il faut sortir, faire du ski, justement, s'exposer au peu de lumière, au peu de lumière du jour auquel on a accès. Dans le nord de la Norvège, ils ont accès pratiquement à aucun soleil pendant plusieurs mois. Donc c'est ça, on fait des petites cures de lumière artificielle, on mange de l'huile de foie de morue pour pas manquer de vitamine D. On fait des petites cures comme ça d'huile de foie de morue.
Et comment fait-on pour coucher ses enfants avec un soleil perpétuel comme ça ? Moi, ça me
c'est
pose vraiment des angoisses existentielles.
Alors, c'est très difficile. L'année dernière, on est allé faire du camping dans le Finnmark, c'est pratiquement au Cap Nord. C'était une horreur pour coucher les enfants, voilà. Justement, parce que alors faire du camping en pleine lumière quand il fait jour tout le temps, déjà pour les coucher c'est dur, et après ils se réveillent au bout de 3 heures et comme les oiseaux chantent, le ciel est bleu, le soleil est au pic, c'est un peu compliqué.
D'être tranquille alors.
Comment? Ouais, donc on a des rideaux obscurs, enfin on a plein de choses dans les maisons pour essayer de dormir, mais les Norvégiens ont l'air d'être beaucoup plus habitués que nous.
Ah ouais, et d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent il y a même pas de rideaux dans un pays où il peut y avoir du soleil tout le temps, toute la nuit, vous avez même pas de rideaux, des fois c'est dur. Comment est-ce que vous parleriez de l'esprit des Norvégiens qui sont souvent assez modestes, c'est pas un pays où on fait des esbroufs, hein, c'est pas bling bling. Comment vous racontez ça, vous ?
Oui, alors en fait, ça vient, moi j'ai été assez étonnée justement de cette modestie. Ils sont un peu timides, modestes, les gens se vantent pas trop. Et j'ai fait un peu des recherches et ça vient en fait d'un protestantisme assez rigide qui a été imposé plus ou moins par la force en Norvège. Et même si les gens ne sont plus trop religieux, cet esprit est resté. Ouais. Et donc effectivement, il faut pas faire de vagues. Donc un exemple, il y a une copropriété avec que des maisons blanches. Même si l'un d'eux a envie de faire une maison, de peindre sa maison en bleu, il va pas le faire. Il faut pas se démarquer. Si on devient très riche, il faut pas trop le montrer. Si on est plus intelligent que les autres, il faut pas trop en parler. Donc il faut rester comme ça dans la moyenne.
Et donc si on se démarque un peu, si on se montre un peu, comment on est reçu ?
C'est très mal vu.
Ah oui.
Alors, il faut pas trop se vanter. Donc, si on est, par exemple, si vous gagnez des médailles en ski, par exemple, pour la Norvège. Donc là, de toute évidence, vous vous démarquez puisque vous êtes meilleur en ski que tous les autres. Et donc là, il faut être très humble quand on reçoit sa médaille. D'ailleurs, quand ils reçoivent des médailles, ils sont très humbles. Ils parlent de l'esprit d'équipe, que c'est grâce à la Norvège, à son terrain extraordinaire qu'ils ont réussi à gagner. Mais c'est finalement pas vraiment à cause d'eux-mêmes, qu'ils ont beaucoup souffert. Vous voyez, ils parlent toujours de la souffrance qu'ils ont dû endurer au lieu de dire, bah oui, je suis super, j'ai gagné plein de médailles.
Mais alors, les
Donc c'est un peu, c'est pas trop comme en France.
Ah oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Les Français un peu râleurs, ils les voient de quel œil alors?
Ben, c'est un peu un choc des cultures. En France, on peut se vanter un peu, on peut faire semblant qu'on a des connaissances qu'on n'a pas forcément, qu'on sait une chose, qu'on a réussi alors qu'on n'a pas forcément réussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu l'opposé.
Merci beaucoup, Laure Lou. Restez avec nous. On va écouter Clara Luciani dans un tout petit instant sur Europe 1. Et puis, nous continuerons à parler de votre pays d'adoption. Juste après, Clara Luciani, La Baie.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous sommes toujours en Norvège avec Laure Lou Desjardins, qui est écrivain, journaliste en direct depuis Oslo. Il y a quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui, c'est que la Norvège, qui est aujourd'hui un pays extrêmement riche grâce au pétrole, était un pays extrêmement pauvre, il n'y a encore pas si longtemps, dans les années 50, c'était un des pays les plus pauvres d'Europe, c'est un changement énorme.
Oui, tout à fait, oui. Et ça a été un pays pauvre pendant plusieurs siècles. Ils ont été occupés par la Suède et par le Danemark, et sont indépendants juste depuis 1905. Et au 19e siècle, ils ont perdu à peu près la moitié de leur population qui a émigré aux États-Unis.
Ouais, tout le monde partait, c'était trop pauvre.
Au nord des Asies. Ouais. Ben, c'était pauvre, il n'y avait pas assez de terres, il n'y avait pas assez de culture. Il n'y a que 4% du territoire norvégien qui permet de faire de l'agriculture. En plus de l'hiver, donc ils ne produisent pas grand-chose. Donc effectivement, les gens partaient pour avoir accès à des terres, à une ferme, pour une meilleure vie, quoi.
Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la mentalité des Norvégiens qui est resté de ces périodes difficiles? Parce que quand on passe de très pauvre à très riche, il y a forcément quelque chose qui reste dans l'esprit, dans la mentalité.
Alors oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est resté, mais dans les générations qui ont connu la pauvreté. Donc les générations, les gens qui ont autour de 50 ans, ils se rappellent de ces temps-là qui étaient plus difficiles que maintenant. Par contre, les générations qui ont 20 ans, ça ne leur dit rien du tout.
Alors vous vivez à Oslo, qui est donc la capitale de la Norvège, et qui est une ville que vous appréciez particulièrement, je crois, pour son air pur, pour son côté à la nature.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est tous les avantages d'une grande ville. Il y a un opéra, il y a énormément de musées, mais en même temps, énormément de nature, des lacs, une forêt, enfin des forêts même, on peut faire du ski... Il y a même le fjord, donc c'est un équilibre qui est très agréable.
Parce que la ville est dans un fjord.
La ville est dans un fjord. Alors c'est moins spectaculaire comme fjord que les fjords de l'ouest de la Norvège, parce que les côtes du fjord ne sont pas aussi escarpées, ce ne sont pas des hautes montagnes. Mais effectivement, c'est un fjord, donc on a accès à toutes les îles du fjord dans lesquelles on peut aller, même avec le ticket de métro de la ville d'Oslo. Donc c'est très reposant comme vie.
Bon, vous avez l'air contente d'habiter là-bas.
Moi, je suis très contente. En plus, il fait pas trop chaud. C'est vraiment un climat. C'est très bien.
Jean-Bernard.
Ouais, quand j'étais à Oslo, moi, j'étais incroyablement fasciné par ce que les habitants me disaient. En hiver, c'est le ski, c'est vraiment une religion là-bas. Le ski de fond. Hein. Je parle du ski de fond en particulier. J'ai l'impression que tout le monde fait du ski de fond. Est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas. D'ailleurs, ça arrive que les gens amènent leur ski au bureau et ils partent plus tôt pour aller faire du ski sur des pistes illuminées. Et donc, ils partent comme ça. Moi, j'avais un chef une fois, il est parti en ski.
Alors, ce qui est fou avec cette ville, c'est que vous avez la nature et puis tout ce qu'il faut d'un point de vue culturel. Il y a beaucoup de musées.
Oui, alors ces dernières années, ils ont construit énormément de musées sur le bord de mer. Donc là, ils ont la bibliothèque Björvika vient d'ouvrir. C'est une bibliothèque extraordinaire que je conseille vivement. Là, le musée Munch va ouvrir dans peu de temps. Ouais. Il y a le musée national qui est aussi en train d'être construit. Et il y a un musée d'art contemporain qui a ouvert il y a quelques années, qui est assez spectaculaire, qui a la forme au niveau architectural d'un bateau. Et donc tout ça avec vue justement sur le fjord. Ouais.
Nathalie.
Et l'opéra, bien sûr.
Oui, il y a une chose, à mon sens, qu'il ne faut absolument pas louper quand on est là-bas. Il faut profiter de ce voyage pour aller admirer un tableau vraiment mondialement connu. Hein. Cette toile s'appelle Le Cri d'Edvard Munch. Mm-hmm. C'est vraiment une toile incroyable parce qu'elle symbolise à la fois l'angoisse de l'homme moderne, la difficulté.
Elle est horrible.
Ben, oui, en fait, je vais la décrire. Enfin, je vais essayer de la décrire. C'est un personnage qui se bouche les oreilles en émettant un son muet avec une expression complètement horrifiée sur le visage. Et tout ça sur un fond très tourmenté, avec des lignes en mouvement, et ça représente aussi une sorte de coucher de soleil flamboyant sur le fjord d'Oslo. Alors il y a une petite chose à connaître sur ce tableau. Figurez-vous que 10 ans avant que Munch le peigne, puis d'ailleurs il y en a peint 5 hein, de ce cri, il y a eu 5 versions, il y a eu une éruption d'un très grand volcan en Indonésie, le Krakatoa, en 1883, et il y a eu une pluie de cendres, donc ça a complètement déréglé le climat mondial, et il semblerait que ce coucher de soleil flamboyant ait été inspiré par cette éruption volcanique.
Ouais. Bon, écoutez, ça nous a donné beaucoup d'envie de retourner en Norvège, tout ce que vous nous avez raconté, Laure-Lou. C'est un super pays, vous avez de la chance.
Merci.
Continuez à bien profiter de la Norvège, ne prenez pas froid quand même. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour sur cette antenne. À très bientôt.
À bientôt, bon voyage si vous venez par ici.
Merci beaucoup. Nous allons poursuivre le voyage en Norvège encore un petit peu, parce qu'on aime ça, avec la cuisine norvégienne et des choses très étonnantes d'Emmanuel Jarry dans un tout petit instant sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait, Philippe Googler.
Et si on partait en Norvège jusqu'à 18h sur Europe 1, comme chaque jour, un voyage sur cette antenne. Et nous sommes avec Emmanuel Jarry,
oui,
qui va nous parler des saveurs norvégiennes. Et j'avoue qu'on est quand même très curieux.
Oui.
Parce que qu'est-ce qu'on mange
tout, là, moi, je vous emmenais tout au nord en Laponie norvégienne,
ah,
chez
oui,
les Samis.
Ah oui, c'est une ethnie qui vit effectivement,
ouais,
tout au nord de la Norvège.
Dans plusieurs pays.
On sait peu qu'il y a des ethnies en Europe,
ouais,
là-haut.
Tout à fait.
Mais
ouais,
il y a les Samis et les Lapons.
Oui, tout à fait. Alors là, moi, c'est les Samis. Et puis, en fait, c'est pas...
Qui n'est pas l'ami de Scooby-Doo.
c'est vrai que c'est pas la cuisine la plus diversifiée,
non,
que j'ai pu goûter hein, dans ma vie. Les ressources sont peu nombreuses. Mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même intéressant de constater l'adaptation, une fois de plus, de l'homme à son milieu. C'est un milieu compliqué, parfois hostile. On est au-delà du cercle polaire. Et je voulais vous donner un exemple qui est assez étonnant. C'est l'écorce de pain ou de bouleau.
Ça se mange ?
Oui. En fait, les Samis font de la farine et avec ça, ils font du pain. Alors, ils prélèvent l'écorce externe des arbres vivants.
Ouais.
Alors, il faut prélever une toute petite partie pour ne pas mettre l'arbre en péril. C'est pas un aliment très nourrissant, hein, mais c'est très parfumé, en particulier l'écorce de pin, donc c'est agréable à cuisiner, ça donne du goût. Et puis, ils prélèvent aussi l'écorce interne des arbres, une fois qu'ils ont été coupés, les arbres, ou alors s'ils sont destinés à être coupés, parce que c'est une partie qui est vitale pour l'arbre. Donc si on la prélève, bon, l'arbre meurt. Et en fait, cette partie-là, elle est très riche en glucides et en vitamine C, et ça a permis à beaucoup de Samis d'échapper au scorbut pendant des siècles.
Ah, ouais,
ouais.
Ah, je savais pas ça. Ça. On peut faire ça avec nos arbres à nous aussi ?
Bah, je sais pas.
En mais fait, les écorces sont panifiables,
non,
alors.
On n'a pas de problème de scorbut.
Il faut une poudre. En fait, dans un mortier, ils réduisent
ils
la poudre.
Ils mélangent pas avec une autre farine. Rien
si,
du tout.
Ils peuvent mélanger.
Ah, voilà,
si,
ça,
ils mélangent avec d'autres. Ils mélangent avec d'autres, ouais, farines. Alors, c'est vrai que dans d'autres pays, par exemple, on boit l'eau de bouleau. Mais
oui,
là, l'écorce, j'ai vu ça que là. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Vous voyez, quand on n'a pas grand-chose, on trouve toujours une solution.
Et à part l'écorce des arbres, qu'est-ce qu'on mange ?
Non, mais alors, les Samis, c'est un peuple de pêcheurs, donc ils capturent beaucoup de saumons sauvages, des harengs, évidemment, qui font sécher pour les conservés, sont aussi des cueilleurs. Et là, ils collectent des érelles et la fameuse baie arctique, qu'on appelle ailleurs la plaque bière.
Ah, ça, c'est délicieux, ça.
Voilà. Et en fait, ce sont des petits,
ah,
fruits qui ressemblent.
Ouais, c'est bon, ça.
C'est délicieux.
Ouais, c'est...
Ouais.
Et puis, c'est considéré comme un caviar local.
Ouais, c'est l'équivalent
avec du renne.
C'est ça.
Avec du renne.
Ouais, c'est ça.
C'est super bon.
Exactement. Et en fait,
c'est,
ça ressemble, ouais, c'est à
magnifique,
nos mûres. Vous savez, le fruit, la mûre, mais c'est jaune-orangé quand c'est mature, en fait. Elle est rouge au départ. Il faut attendre qu'elle se pâlisse. C'est l'inverse de nos mûres à nous.
C'est la même saveur ?
Non, c'est plutôt acre, acre et acide. Et
astringent.
En fait, ouais, voilà, astringent. Et en fait, mais ces baies sont importantes dans la nourriture du peuple sami parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fruits, de légumes. Donc voilà, c'est une. C'est d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de vitamine C dans ces petites baies. Donc ils en font des desserts, ils en font des jus, ils les font fermenter et évidemment, comme disait Nathalie, des sauces pour accompagner la viande. Ils mangent beaucoup de viande, ils sont chasseurs, les samis, l'élan, les oiseaux, mais surtout, ils consomment la viande de renne, et renne,
oui,
c'est vraiment le pilier de la culture sami.
Oui, parce qu'on en fait beaucoup de choses dans le renne. Dans le renne, tout est bon, c'est presque.
c'est... Ah bah, Il y a tellement peu de choses que quand on tue un animal comme ça, il faut vraiment l'exploiter pour tout. Alors les vêtements, les chaussures avec la peau, les os, ça permet de faire des outils. Évidemment, la viande pour la cuisine. En fait, on dit souvent que les Samis sont des éleveurs de rennes, mais ce n'est pas exactement ça, parce que le renne est impossible à domestiquer si on les prend en captivité. Ils meurent très vite. Donc en fait, ils suivent la migration des animaux. Les animaux se déplacent à la recherche de fraîcheur et de lichen, et les Samis suivent. Alors on ne sait pas trop si c'est eux qui conduisent le troupeau ou si c'est eux qui suivent le troupeau.
Vous voulez dire que les rennes élèvent les Samis?
Les rennes tiennent les rennes.
Oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. En fait, c'est des peuples semi-nomades. Donc voilà, ils suivent les animaux. Et en fait, les rennes vont de plus en plus dans le nord au fur et à mesure que l'été arrive, à la recherche de lichen dans la toundra. Et ils sont, même s'ils sont sauvages, ils sont faciles à attraper, à capturer. Donc voilà.
Et alors, ça a quel goût le renne?
Alors, c'est un peu fort, mais moi, j'ai une expérience très particulière de la viande de renne, la façon dont je l'ai consommée, je dirais même assez sommaire, parce que je suis partie en Laponie norvégienne il y a quelques années pour découvrir la culture Sam, justement, et c'était en hiver au mois de janvier.
Ah, bah, vous avez bien choisi votre période.
Donc, je suis partie en traîneau voir les troupeaux de rennes avec des Samis, et ce jour-là, il faisait moins 35 degrés.
Ah, bah oui.
Et je me souviens que la veille, il faisait moins 20, personne ne se posait de questions, c'était normal, et à moins 35, on m'a dit, bah, là, ça commence à être dangereux, donc il faut bien se vêtir. Et donc, voilà, on m'a donné, d'ailleurs j'avais pas ce qu'il fallait, on m'a donné plein de vêtements, j'étais comme un bibindum, je pouvais plus bouger avec une cagoule, avec les yeux qui sortaient. D'ailleurs tous les quarts d'heure on s'arrête pour vérifier que les doigts fonctionnent, que le nez est toujours et pas congelé.
Et alors ça fait quelle sensation? Moins 35.
Moi, je m'étais vu tout ce que j'avais sur moi, je m'étais dit tout va bien, et en fait non, on finit par avoir froid. On a froid quoi qu'il arrive, surtout qu'il y avait du vent. On est monté en haut d'une colline, tout était blanc, c'était vraiment magnifique. Et au bout de quelques minutes, le troupeau est arrivé. Il vient chercher de la nourriture et notamment du sel. Donc là, il était midi, et on s'est dit faut se dépêcher parce que le soleil va bientôt décliner. À 14h, il fait nuit.
Voilà.
Et donc on est allé dans une zone où il y avait un peu des arbres. On a récupéré des branches pour faire une litière. Dessus, on a posé une peau de renne. On a monté une tente, le lavo, pour passer la nuit. Moi, je me suis dit, on va dormir, il fait moins 35 la journée, on va passer la nuit là. Et oui, pas de problème, parce qu'il faisait 5 degrés dans la tente, on a allumé un feu, donc 5 degrés, c'est bien quand il fait moins 40 dehors.
Oui, c'est pas faux.
C'est quand même prouesse technique, quoi.
C'est pas convaincu.
Mais non, mais oui. Et là, donc, moi, j'étais émerveillée. Et donc, j'ai enlevé quelques couches, mais après, évidemment, on dort comme avec une doudoune, 3-4 collants, etc. Et puis, on a fait un feu, et un Sami a pris une branche d'arbre, il l'a taillé en pointe, ça m'a fait une brochette. J'ai planté le morceau de viande dedans, et je l'ai grillé sur le feu, voilà. Ça, c'est mon expérience de la viande de renne. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit au début, c'était assez sommaire. Mais les Samis, ils en font de la viande fumée.
Mais c'était bon ou pas? On ne sait pas, du coup.
Honnêtement, ce qui était bien, c'était l'expérience. Et comme a dit quelqu'un, le meilleur moment de ce qu'on est en train de vivre, c'est quand on le racontera à Paris. Donc, vous voyez, c'est peut-être maintenant. Alors, je suis en train de vous évoquer ce souvenir.
D'accord.
Non, c'était étonnant. En tout cas, ils en font de la viande fumée, du boudin, de saucisson, plein de choses. Mais moi, j'ai pas goûté à tout ça.
Et même il y a des burgers de renne. Même.
Alors, vous allez nous parler d'un truc alors, qui me fait peur. Vous me faites peur parce que c'est un sujet extrêmement touchy. C'est la viande de baleine.
Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, la Norvège est le seul pays avec l'Islande qui continue d'autoriser la pêche à la baleine.
Mais pour consommer ?
Oui, pour la consommer.
Ah bon ?
Ouais, c'est ça. Alors en fait, ils avaient signé le moratoire international sur la pêche en 86 et ils ont repris la pêche, réautorisé la pêche en 93 parce qu'ils ont considéré qu'il y avait assez de baleines. C'est surtout des petits, c'est des rorquals, des petites baleines. Le stock a été estimé à 100 000 animaux, donc on autorise, je crois, un peu plus de 1 000 animaux, une pêche de 1 000 animaux par an. Il y a de moins en moins de bateaux de pêche. Il y a, dans les années 50, il y en avait 300. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 parce que, évidemment, les gens en consomment de moins en moins. Voilà. Moi, j'ai goûté.
Vous avez osé goûter de la baleine.
Oui, parce que j'étais à Kirkenes, vous voyez, tout au nord, à la frontière russe.
Des restaurants spécialisés.
Voilà, il y avait des restaurants. Donc, j'y ai goûté pour ne pas mourir idiote. Mais c'est vrai qu'a priori, je n'en reconsommerai pas.
Et alors?
C'est pas mauvais. Mais,
ça a le goût de quoi?
De cuir.
Ah oui,
ouais, moi j'avais l'impression de
c'est
manger
dense.
Du cuir.
Ouais. Voilà, c'est ça, cuir. J'allais
c'est
dire,
bon,
c'est
alors.
Une chair dense.
Bon, bon.
En fait, c'est-à-dire que c'est le mental là, qui joue, parce que vous vous dites que vous mangez quelque chose qui est protégé. Donc c'est problématique. Moi, je voulais le goûter une fois, mais c'est vrai que je ne recommencerai pas, parce que je pense qu'il faut quand même protéger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Bernard.
Il y a pour cette raison-là, et puis je pense qu'objectivement, pour un palais français, ce n'est pas du tout raccord. Quoi.
Ouais.
Merci Emmanuel Jarry. Quelques instants, nous allons retrouver Jean-Bernard Carrier et ses exceptionnels bons plans, rien que pour vous, et pour découvrir la Norvège, mais pour l'instant, un groupe star norvégien des années 80. Voici AA, Taken Me.
Europe 1, 16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Norvège.
Toujours en Norvège.
Jean-Bernard.
Et on va y rester.
On aimerait y rester longtemps. C'est tellement beau, ce pays des fjords profonds. De la solitude, de la nature brute, sauvage, qui vous impressionne un peu, qui vous écrase un
qui
peu.
Qui vous domine.
Qui vous domine. Et pour le coup, c'est pas désagréable. Je parle de la nature, évidemment.
Je vous avais compris, Philippe, bien sûr. Alors écoutez, il y a vraiment une expérience hors norme que j'ai vécue dans les eaux norvégiennes cette fois-ci. Ça se passe au large de la petite ville d'Andenes. C'est un petit peu au-dessus des Lofoten. Et c'était en hiver, parce qu'il y a cassé... période que cette expérience peut se produire, j'ai embarqué, au départ du petit port d'Andenes, j'ai embarqué sur un bateau de type Zodiac avec un groupe. On a fait une demi-heure de navigation dans un fjord, emmitouflé dans des combinaisons grand froid, parce que les équipements là-bas sont très importants. Et puis le pilote du bateau, soudain, il a coupé le moteur et il a crié « Là, devant le bateau !» Tout ça en anglais. À quelques mètres du bateau, j'ai tourné mon regard et il y avait plusieurs immenses ailerons qui fendaient la surface couleur bleu acier du fjord. Les ailerons du plus grand super prédateur de la planète, les orques, Philippe.
Alors, et vous avez eu peur ?
Bah pas du tout, on est resté sur place.
Parce que vous êtes courageux ?
Non, parce que c'était le but, c'était de les approcher, ces fameux orques. On s'est mis à l'eau avec nos combinaisons spéciales, masques et tuba pour les observer. L'eau est à 3-4 degrés, grâce au Gulf Stream, je l'ai dit. Alors on était en surface, on flottait comme des bibendums en fait, et sous l'eau à quelques mètres, on a assisté au festin des orques.
Ah,
car chaque année, les orques viennent se gaver de bancs de harengs dans les fjords de cette région. C'est un peu leur restaurant 5 étoiles. Les harengs sont bien gras, bien dodus. C'est le moment pour les orques de se régaler. Elles chassent en troupeau. On a vu cette chasse sous l'eau, à quelques mètres sous la surface. Une technique imparable. Elles encerclent le banc de harengs. Puis ensuite, elles traversent ce banc de harengs en donnant un énorme coup de nageoire. Ça assomme les poissons et il n'y a plus qu'à les avaler
elles
tout cru.
Elles assomment les poissons
d'un coup de nageoire et les avalent tout cru. Pour moi, c'est l'une de mes plus belles expériences animalières que j'ai pu faire dans le monde. Sachant qu'avoir face à soi un orque de 8 mètres de long et de 5 tonnes, croyez-moi, vous n'oubliez pas ça de sitôt.
Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire en
Norvège. Oui, tout le monde peut faire. Bon, il suffit de ne pas être trop frileux. Quoi.
Oui, l'eau voilà, est à combien ? Parce que moi, ça m'intéresse.
3
ça.
À 4 degrés, ah, voilà. Et c'est à cause du Gulf Stream. Elle n'est pas gelée, l'eau. Ah. Voilà.
Mais donc, on s'adresse à une agence de voyage et
oui,
ils vous emmènent
sur place
voir
à Andenes. Il y a plusieurs prestataires locaux qui. C'est relativement connu maintenant. Mais c'est une expérience magique pour ceux qui veulent approcher ces animaux. Enfin, ça reste à vous. Ça vous transporte.
D'autres expériences incroyables ?
Ben oui, à Tromsø, ça c'est tout au nord du pays. Je suis allé chasser les aurores boréales. On était dans une chambre d'hôte en pleine nature et après le dîner, on a fait le guet avec nos appareils photo. On était là, on attendait. Notre hôte nous disait « Attendez, ça va venir ». Et soudain, elles sont apparues dans le ciel comme d'immenses draperies d'un beau vert émeraude. Mmh. Ça bougeait dans tous les sens, c'était animé. Je me serais cru dans un jeu vidéo, Philippe. C'était l'un des plus beaux spectacles naturels que j'ai pu
voir. C'est magnifique, c'est un ciel noir et des grandes draperies qui ondulent comme ça.
C'est des ondulations et c'est un film en 3D en fait. Alors elles ne sont pas forcément vertes, des fois des petites déclinaisons un petit peu roses, un petit peu jaunes. C'est un spectacle fabuleux. Et le must du must, je l'ai fait aussi, c'est dormir dans un bungalow avec un toit en verre. Pour admirer la folle danse de ces voiles lumineuses. Oui. Ça, c'est le top du top. C'est pas donné, mais c'est une expérience à faire une fois dans sa vie.
C'est l'extase. Que l'hiver, c'est ça ?
C'est que l'hiver, tout à fait.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on vous dit allez, on vous emmène voir les aurores boréales, mais des fois, elles n'arrivent pas tout de suite.
C'est pas garanti.
Et quand vous attendez 4 heures par moins 20 dehors, les aurores boréales, vous les appréciez moins.
Il y a quand même des applications qui permettent de faire un suivi assez efficace. C'est bien organisé sur place.
Je croyais que c'était imprévisible.
Ça reste, mais il y a des moyens, il y a des applications qui calculent la distance, la puissance du vent solaire, etc. C'est très bien organisé quand même, mais il n'y a pas de garantie non plus, il faut quand même le dire. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages, évidemment.
Et alors, cette histoire de nuit permanente pendant des mois, qui pour nous est vraiment très, très, très effrayante, nous qui vivons toujours avec du soleil chaque jour, comment est-ce que les gens que vous avez rencontrés le vivent ?
J'ai passé un petit peu de temps dans une auberge, dans un village de pêcheurs, un peu au-dessus des Lofoten, et j'ai demandé au propriétaire ce qu'il pensait de l'hiver. Je vais vous donner sa réponse, parce que ça m'a beaucoup surpris. Il m'a dit... J'aime cette atmosphère sombre liée à l'hiver. Elle stimule mon activité intérieure et modifie mon rapport au temps. Je me replie sur moi. Cela peut surprendre les citadins qui sont très expansifs, mais pour moi, c'est la meilleure manière de vivre ce silence très parlant. Quand la première lueur du jour revient, mi-janvier, c'est la fête. Voilà. Voilà comment ce monsieur qui s'appelait Siem Yon m'a raconté la façon de qui vivait l'hiver, l'impact de l'hiver sur lui. C'est très émotionnel finalement.
C'est vrai, et c'est pas désagréable de découvrir ces pays quand il fait presque nuit tout le temps, parce qu'il y a une vraie ambiance,
tout à fait.
Pareil qu'on n'imagine pas chez nous.
Tout à fait.
Et vous avez raison, c'est très bien.
C'est
très
quelque
bien
chose de très intérieur, voilà.
Et alors, comment on peut profiter de l'art de vivre à la norvégienne ?
Vous savez, le rapport à la nature, on l'a vu avec notre invité tout à l'heure, ce goût de la vie en plein air, il y a même un mot, ça s'appelle le friluftsliv,
oui,
ça veut dire la connexion spirituelle et physique à la nature. Alors sur place, j'ai voulu expérimenter, vous me connaissez, je veux quand même tenter toutes les choses. J'ai voulu expérimenter le friluftsliv. J'ai fait une balade en traîneau à chien, c'était là aussi en hiver évidemment, c'était dans un plateau enneigé, dans l'arrière-pays de Tromsø, et là j'ai fait connaissance avec mes gros toutous. Ils aboient tous, hein, quand on les voit, c'est impressionnant. Mon attelage, c'était une meute de 5 chiens, tous des huskies. Il y avait Ragnarok, Thor, Odin, Storm et Fifi. Des huskies athlétiques, légers, qui ne s'enfoncent pas de la neige. On les appelle les Formule 1 de l'Arctique. On a fait une super balade de 10 km avec les leaders en tête, à l'arrière les plus costauds. Alors, le conduit d'attelage, ce n'est pas super simple non plus parce qu'il y a de la poudreuse. Et puis, parfois, on perd un petit peu l'équilibre dans les...
Vous avez conduit vous-même.
Ben oui, on conduit
c'est
derrière.
C'est très difficile.
C'est assez balèze, ouais, effectivement. Donc, dans les virages, on perd parfois un peu l'équilibre. Ça va assez vite, en fait. Hein. Ça fait facile 30-40 km/h.
Ouais.
Et puis, il y a des fois les chiens qui se chamaillent entre eux. Alors, vous avez évidemment votre guide qui vous apprend un petit peu à les dompter, mais à les calmer. Bah, c'est une belle expérience aussi.
Vous êtes
pour
debout,
avoir une...
c'est ça ?
On est debout à l'arrière du traîneau. On tient le traîneau à l'arrière et on se laisse tirer par la meute. En fait.
Donc ça, c'est pareil, c'est un conseil que vous donnez. On peut tous faire ça
Le chien d'attelage, le traîneau, c'est quelque chose à vivre en hiver quand on va en Norvège d'office. Plutôt que la motoneige, je trouve que c'est trop bruyant la motoneige. Au niveau, le côté moteur en pleine nature, ça me gêne un peu. Là, on est vraiment avec des animaux qui sont adaptés au paysage. Voilà.
S'il y avait une seule ville que vous nous conseilleriez, ce serait quoi
moi,
en Norvège ?
C'est Bergen, c'est la deuxième ville du pays. J'ai trouvé qu'elle avait un charme fou, cette ville. Il y a des collines, il y a plein de baies, il y a évidemment beaucoup d'eau. Et puis il y a un funiculaire qui monte à Fløyen, à 320 mètres d'altitude. Et là, vous avez un panorama extraordinaire. Pour moi, Bergen, c'est la Rio de Janeiro de la Norvège.
Oui. Bon, d'accord. Okay.
Quelques degrés en moins.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. C'était un très beau voyage en Norvège. Merci beaucoup. On partira encore demain. Nous irons cette fois dans un pays plus proche, mais qui lui aussi promet, on pourrait y aller 15 fois. Et nous irons en Italie, à Venise, à Rome, au pays des cinq terres, du carpaccio et des pizzas. Et puis nous irons en deuxième heure dans le paradis terrestre, la Polynésie. Tout cela demain dans Et si on partait sur Europe 1. Dans un instant, le grand journal du soir. Bonsoir François Claus.
Ah écoutez, Ipanema sur un fjord, mon cher Philippe, j'y avais pas pensé, mais vous m'avez fait rêver.
Et on a
besoin de rêver, de voyager avec vous. Hein, on aurait par exemple aimé faire une belle escapade au Liban.
Ah, oui.
Le Liban de la forêt de cèdre, du chouf, le Liban de Baalbek. Malheureusement, c'est un Liban en cendres qu'on va vous raconter ce soir. Mais on pense bien sûr à tous nos amis libanais. Et ça fait d'autant plus du bien que de voyager avec vous, mon cher Philippe. À demain.
C'est gentil. À demain, François. Moi aussi, j'ai une grosse pensée pour nos amis libanais parce que c'est un pays qui en bave depuis quelques années et qui a réussi à rester en paix pendant des années dans un environnement extrêmement difficile, qui traverse une crise économique terrible et qui, en plus, se prend ce phénomène ahurissant. Donc moi aussi, j'ai vraiment de grosses pensées pour nos amis libanais.
On y sera dans un instant, en direct.